Bonjour à tous et à toutes, j'ai toujours un espoir, mais on ne sait jamais. Bienvenue pour ce 7e podcast. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des habitués de mes podcasts parce que j'ai regardé le numéro 6, date de 2014. Donc, ça fait super longtemps que je n'ai pas pu vous faire saigner les oreilles. Mais c'est reparti. Et aujourd'hui, la thématique va être les contenus spécifiques avec Mask et DCE. Donc deux extensions qui font à peu près la même chose, mais on va essayer de les comparer en fait. Et autour de la table, il y a Renan Gauthier, qui est intégrateur Typo 3 certifié,
Bonjour à tous.
et Frédéric Petit, le mal nommé, hein, puisqu'il est très grand, qui est dirigeant de la société eWill, qui est juste en face de nos bureaux. Et la porte était ouverte, donc il est venu s'installer aussi, puisqu'il travaille aussi sur Typo 3 avec DCE et Mask.
Bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, je voulais resituer un petit peu la problématique des contenus spécifiques, puisque ça ne date pas d'hier. Hein, depuis le début avec Typo 3, on s'est posé ces questions, puisque on a à disposition des contenus standards, donc texte et images, texte, images, formulaires,
Les
afficher les
médias.
fichiers, des médias, etc., des vidéos. Mais parfois, on a besoin de créer des contenus spécifiques, comme par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple qui m'est déjà arrivé, créer une fiche de présentation d'un élu. Le client veut pouvoir en mettre un peu où il veut dans le site, et donc il faut lui créer un contenu type avec, je ne sais pas, une photo, un titre, une description, un lien, quelque chose de ce type, et qu'on ne peut pas faire de manière vraiment esthétique avec un contenu texte et image. Ou alors, ce serait difficile de positionner les éléments comme il le faut. Les réponses à ce genre de problématiques ont été diverses et variées dans le temps. Donc, au départ, il y avait toujours la possibilité de créer une extension maison. Donc, on créait son extension avec un système de templating. Et donc, le contenu est en fait un espèce de plugin qu'on insère,
Dans sa propre table.
voilà, dans sa propre table et qui affiche un contenu spécifique. Ensuite, il y a eu Templavoilà voilà qui a proposé pour la première fois la notion de contenu spécifique,
Contenu flexible.
les FCE, Flexible Content Element. Et donc là, on avait une logique où on pouvait créer un template, le mapper, indiquer des types de champs back-office pour pouvoir saisir les infos. Et donc là, on avait une solution vraiment adaptée, je trouve, et assez puissante quand même pour faire ce genre de choses. Seulement, voilà, Templavoilà voilà est maintenant périmé parce que plus trop adapté aux moyens de fonctionner avec Typo 3. Les défauts de Templavoilà voilà ont fait aussi qu'il a un peu périclité avec le temps. Mais en fin de compte, on n'a pas eu vraiment de remplacement, quoi. Dans Typo, un système aussi intégré, aussi puissant, on n'en a pas eu. Jusqu'à ce qu'il y ait. Donc historiquement, je me rappelle de WEC,
Ouais.
c'était Web Unpowered Church Content, je crois l'acronyme, qui est une extension qui était issue en fait d'un projet de création de sites automatisés pour l'église en fait américaine. Donc un projet qui avait eu pas mal de budget et du coup cette extension-là était assez puissante, on l'a utilisée pas mal. Et puis est apparu DCE, Dynamic Content Element. Et assez récemment, Mask, qui est un projet qui est en fait un espèce de revival de Templavoilà, voilà, assez sympa aussi et qui ressemble pas mal à DCE. Donc nous, on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur ces deux extensions. Frédéric, vous aviez un peu le même passé là vis-à-vis
Oui,
des contenus spécifiques?
exactement. Beaucoup de FCE à l'époque de Templavoilà. Et c'est vrai que depuis, avec Fluid, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait utiliser. J'étais tombé également sur DCE. Donc j'ai utilisé DCE quelques temps. Et depuis, j'ai découvert Mask. Donc ce sera l'occasion d'échanger. Effectivement, on a retrouvé la flexibilité qu'on avait avec Templavoilà et les FCE. Et ça, donc, ça nous permet de faire n'importe quelle typologie de contenu, des sliders ou des choses comme ça très facilement.
Et toi, Renan, du coup, t'as connu Templavoilà voilà? T'étais
Très
arrivé
peu,
à la fin, toi,
très peu.
déjà,
Non,
hein?
j'ai jamais fait de contenu donc de contenu spécifique sous Templavoilà. Voilà. J'ai commencé avec WEC en fait. Donc c'était déjà assez intéressant. Après, c'est vrai que le templating en TypoScript c'était un peu limité. Et donc on pareil là, je me suis mis à DCE.
Et WEC, ça se passait comment?
ça se passait plutôt bien. On arrivait quand même à faire pas mal de choses. Ouais, alors on faisait nos flex forms et il y avait la partie templating en TypoScript.
Oui, d'accord, ok.
C'était uniquement TypoScript. Après, on peut ce qu'on veut en TypoScript, donc on pouvait utiliser un template derrière. Mais c'était quand même assez limité. Il y avait pas mal de bugs avec les sections ou des choses comme ça. Donc,
les sections, donc, pour rappeler, c'est ce qui permet de créer un élément qu'on peut multiplier autant de fois qu'on veut au sein d'une,
comme les inline records,
d'une zone. Comme le IRRE, Inline Relational Record Editing.
Voilà.
Je sais juste le dire, moi. Hein, c'est tout.
Et le gros avantage aussi de ces deux extensions-là par rapport à Templa, voilà, c'est le côté rendu back-office aussi.
On va y venir du coup. On the left side, avec un short bleu, nous avons l'extension DCE. Et en face, avec un short rouge, nous avons l'extension Mask. Alors je vous propose de commencer avec DCE. Et on va déjà parler de la version DCE. Donc depuis quand ça existe, à quelle version on en est actuellement, est-ce qu'on est compatible, si oui, avec quelle version de Typo 3?
Alors déjà, DCE donc, existe depuis 2012, donc là je suis sur le TER et on voit que donc, il a commencé avec la version 4.5.
Ouais, la super version 4.5 qu'on a gardée très très longtemps.
Et donc là, si on remonte dans la longue liste des versions, on remonte à aujourd'hui et donc c'est aujourd'hui compatible version 7.6, version LTS actuelle. Donc ce qui est plutôt bien, c'est bien maintenu, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mises à jour.
Version 1.3.5, hein. Voilà. Et il y a bien une quarantaine de versions, non, de ce que je vois là, j'ai l'impression.
Là, je pense qu'il y a bien 40 versions.
Voilà, d'accord. Et donc là, par exemple, la dernière mise à jour, bug fix.
Donc, il y a 9 jours, le 20 avril.
Le 20 avril, bon, ok, très bien. Alors, les fonctionnalités de DCE.
Alors, niveau fonctionnalités, on va retrouver la création de n'importe quel type de champ en back-end. C'est-à-dire que on va pouvoir utiliser tous les types de champs disponibles dans Typo 3.
Je suis en train de regarder en même temps le manuel utilisateur, hein, de l'extension, voir ce qu'ils y expliquent. Mais vas-y, continue.
Ok, donc le principe de DCE, c'est qu'on crée d'abord nos champs. Ensuite, on va les associer à notre template. Donc tout ça, donc on a quand même un langage assez technique puisque DCE propose des exemples de morceaux de configuration de FlexForm pour chaque champ. Donc on a des pré-configurations de FlexForm, qu'on sélectionne le type de champ qu'on souhaite, après on fait les modifications qu'on veut dans le FlexForm. Et derrière on a le templating, en back-end aussi, qui se fait donc avec Fluid et des view helpers disponibles spécifiquement pour DCE.
Donc il y a un module back-end qui t'aide en fait à créer tes contenus spécifiques.
C'est ça, voilà.
Mais qui est quand même assez technique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous le montrer là pour nos auditeurs, comme ça ils seront bien frustrés. moi je vais essayer de commenter, hein, pour vous mettre en image ce que je vois. Donc je suis dans le back-office de Typo 3, donc dans les admin tools il y a un nouvel icône qui s'appelle DCE. Et donc j'arrive sur une interface qui me permet de créer un nouveau DCE.
Donc là je retrouve la liste de tous les contenus que j'ai créés.
D'accord, donc là par exemple tu as un carousel Bootstrap.
Voilà, j'ai essayé de créer un carousel Bootstrap avec DCE.
Et donc si tu édites ton contenu, je vois que tu as un champ qui s'appelle Slides. Et voilà. Dedans tu as un contenu Image qui contient un FlexForm XML qui a été ajouté tout seul du coup, puisque c'est un contenu Image.
C'est ça.
Et qui me permet du coup de déterminer les formats d'images acceptées, le nombre d'images maximum.
Voilà, donc là, il faut connecter un petit peu quand même le FlexForm, mais bon, c'est
hyper simple. Si on laisse comme ça, ça fonctionne.
Si on laisse la configuration par défaut, ça fonctionne. Après, en lisant simplement les noms des propriétés, on s'y retrouve facilement.
Et après, en dessous, tu as un champ titre, sous-titre de l'image, qui est donc, il y a aussi des évals, un nombre de lettres, enfin de caractères maximum. Voilà. Mais pareil, c'est du par défaut et a priori, rien à toucher, sauf si on veut faire quelque chose de spécifique.
Voilà, par défaut, on sélectionne une configuration et DCE nous ressort la configuration FlexForm qui va bien.
Ok, donc ça, c'est pour la partie formulaire de saisie de contenu back.
Ouais.
Et après, donc, tu as un onglet, alors je vais lire tous les onglets. Donc, on a un onglet Template, un onglet DCE Container, un onglet Backend Template, un onglet icône et wizard, un onglet detail page et un onglet miscellaneous, donc divers. Donc dans template,
Ah, donc template, ça va être le rendu de template front-end, donc tout simplement un template fluide.
Donc là, alors, on peut, dit tout simplement un template fluide, mais bon, fluide, ça nécessite quand même un petit niveau quand même technique. C'est bon, un intégrateur.
Comment ça fonctionne, voilà. Bon, si on utilise du SmartTF ou des choses comme ça, ça aide, mais effectivement, il faut se mettre dedans, comprendre les boucles.
Quoi qu'il arrive, ça reste des extensions qui sont quand même faites pour les intégrateurs typo 3.
C'est vrai que pour moi qui ai commencé il y a très longtemps typo 3, qui ai pris l'habitude de bosser en marqueur fluide, je trouve ça pas simple parce que j'ai pas trop le background développeur. Ouais. Et puis il y a des notions de boucle, des notions de programmation en fait qui arrivent dans le templating. Donc ça reste quand même pas forcément hyper hyper simple à prendre en main. Donc comme prérequis quand même, c'est connaissance de fluide.
Voilà, c'est ça. Après, pour créer des contenus très simples, t'as quasiment pas de notion de fluide à avoir, puisque
tu mets de l'HTML et c'est tout.
Afficher tes données et voilà.
Ok, donc d'accord. Donc le niveau peut être de intermédiaire à expérimenter, quoi.
Sachant que dans le premier onglet, quand on crée des variables, il nous donne le nom de la variable qu'on utilisera dans notre template fluide.
Ok, donc il y a quand même un assistant à ce niveau-là.
C'est effectivement assez simple de se repérer. Si on a bien nommé ses champs, c'est assez facile, même si on n'est pas...
C'est ça, c'est que DCE va nous assister derrière, puisqu'il nous propose la liste des champs disponibles.
Ah oui, je vois. Donc
ensuite, il suffit de cliquer sur le champ. Et là, par exemple, j'avais fait... donc c'est une section, puisque j'ai voulu faire un carrousel. Mm-hmm. Donc j'ai utilisé les sections. Et là, comme j'ai sélectionné le type de champ section, il m'a ressorti automatiquement le code qui allait bien pour boucler sur ma section et afficher tous les champs qui étaient disponibles.
D'accord,
dans ma section.
Tu as plein d'assistants, là, je vois là, tous les types de contenus.
C'est quand même vachement assisté, on clique, ça crée le bon fluide. Et puis derrière, il suffit de modifier avec le HTML dont on a besoin. Et donc j'ai utilisé un template directement en back-end, mais j'ai une liste déroulante qui me permet aussi de passer par des fichiers. Et donc, si je fais ça, je peux stocker mes fichiers.
Pour expliquer aux auditeurs, on peut copier-coller en gros son template dans un espèce de gros éditeur.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on le voit directement en back-office ou pointer vers des fichiers. Et dans ce cas-là, on peut faire peut-être quelque chose d'assez propre dans une extension avec.
Ça permet de stocker ces fichiers dans des extensions. Mais quoi qu'il arrive, on devra quand même passer par le back-end pour créer la base du contenu.
Ok, alors ensuite l'onglet DCE Container.
Alors DCE Container, là je t'avoue que j'ai pas trop testé cet onglet et j'ai pas vu énormément d'infos sur la doc, j'ai déjà regardé un peu à quoi ça servait, mais.
Donc ça, on peut activer en fait DCE Container, c'est un booléen, donc une case à cocher, et ensuite on peut indiquer une limite d'éléments du container. Et le type de container, donc je sais pas trop.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être un espèce de grid element qui va nous permettre d'ajouter des contenus dans notre contenu. Mm-hmm. Pour faire par exemple des contenus colonnes. En testant rapidement, j'ai pas vu de nouvelles colonnes d'ajouter dans le contenu en lui-même quand je le crée en back-end.
D'accord.
Donc j'ai pas plus d'infos sur le sujet, j'avais regardé rapidement la doc, j'ai pas vu.
Donc ça, on va creuser pour farmer, hein, puisque.
Ouais.
On fait un enregistrement vidéo, du coup, un tuto vidéo détaillé, l'utilisation de DCE et de masques. Donc, c'est un point qu'il faut qu'on creuse, effectivement, pour farmer. OK, donc ensuite, je reviens ici, donc, back-end template. Alors là, ça, c'est assez sympa, puisque du coup, si j'ai bien compris, on peut avoir un affichage personnalisé et assez sexy en back-end.
C'est ça.
Et donc avoir un rendu back-end assez proche en fait du rendu front.
Voilà, c'est le but.
Donc par exemple, pour un carrousel, on peut avoir un preview du carrousel en back.
Un carrousel qui fonctionne complètement avec les clics.
Donc ça, c'est vraiment génial. Puisque voilà. Là, on a les avantages de l'édition front office, avec en plus les avantages du back office qui est quand même beaucoup plus puissant du coup qu'une édition front office.
Et ça marche d'autant plus dans le cas où on utilise Bootstrap pour le templating, puisque maintenant le backend typo 3 utilise Bootstrap, ce qui fait que les sliders qu'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire Bootstrap, vont fonctionner directement. Tout le JavaScript est déjà chargé, et donc ça marche tout de suite. Si on utilise un autre framework CSS, ça fonctionnera pas aussi bien.
Ok, donc ça c'est vraiment top. Voilà. Vraiment top. Ok, alors on continue. Ensuite, on a Icon et Wizard. Donc là, en fait, ça, si j'ai bien compris, c'est pour associer une icône à ton contenu spécifique back.
Voilà, c'est ça. Là, on peut utiliser les icônes par défaut typo 3, donc les icônes des contenus texte oui. Image et tout ça. Et on peut aussi choisir d'utiliser une icône personnalisée.
Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est plus sympa pour s'y retrouver en back.
C'est ça.
Et ensuite, j'ai Enable Detail Page. Et donc là, pareil, c'est une case à cocher. Et je ne sais pas ce que ça fait.
Ça, c'est pareil, ça, j'ai jamais utilisé non plus, mais ça, a priori, ça nous permet de faire des listes et donc d'avoir une page de détails.
D'accord, donc ce serait déjà pour faire, pour faire une vue liste et quand tu cliques, tu as ta vue détail.
Voilà, c'est ça.
Et donc là, du coup, tu as ton rendu en fait, de ta vue détail avec l'ID, en fait, l'ID get
de la section. De la,
voilà, donc c'est ça. Parce qu'on a un champ détail page identifier entre parenthèses get parameter. Donc probablement que si tu passes ce paramètre en get, tu arrives du coup sur cette vue détail qui utilisera donc le template que tu as fourni là. Donc ça c'est hyper sympa puisque on répond à un besoin hyper standard dans typo qui est de dire j'ai une info en vue liste et quand je clique dessus j'ai la vue détail.
Voilà, donc, pour par exemple, des enregistrements très simples ça fonctionnera bien.
Ouais. Si je reprends l'idée de ma fiche élue. Eh bien, j'ai ma vue liste d'élus, je clique dessus, j'ai la fiche détail et j'utilise pas de grosses extensions à la TT News ou autre pour faire ce genre de choses. Ok, et ensuite divers.
Divers, donc là c'est toute la configuration du plugin, donc on peut activer ou désactiver les caches, désactiver les div par défaut typo 3, donc le CSC default
qui va rappeler les contenus. D'accord, donc pour avoir un code généré plus propre.
Voilà, ensuite on peut choisir si on active ou non l'onglet accès, donc qui nous permet de gérer les droits d'accès typo 3 classique.
Ok.
L'onglet catégorie.
Ah super, chose. Donc on peut nativement se connecter en fait aux catégories typo 3.
Voilà, c'est ça. Et ensuite on a la palette par défaut typo 3 donc, qui nous permet d'utiliser les champs qui sont disponibles dans les contenus, donc notamment l'ICIS Language UID, la position, donc tout ça, on peut choisir de les afficher ou non dans le back-end.
Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de monter à l'échelle à côté de la porte, donc si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal. donc là, c'est plutôt une page un peu technique, puisqu'on peut gérer les caches, on peut gérer l'ordre des champs spécifiques typo 3, d'accord, ok.
Bon, c'est là aussi qu'on va pouvoir utiliser, définir le chemin vers nos layout et nos partiels.
Ok, d'accord. Parfait. Alors, niveau fonctionnalité, donc on voit qu'on est sur un système qui est assez technique, assez puissant aussi de ce que je vois. Hein. Il y a beaucoup de flexibilité qui a l'air d'évoluer fréquemment, mais qui nécessite un certain niveau d'expertise.
C'est ça.
Très bien.
Ok.
Ok, nous avons été interrompus quelques secondes et nous venons de déménager, donc si le son a un petit peu changé, pas d'inquiétude. Alors, on était en train de faire un bilan en fait de l'extension DCE, donc et de dire que c'est une extension plutôt technique, qui a l'air très puissante, qui est mise à jour souvent, et qui possède pas mal d'assistants quand même et d'exemples, puisque quand on lit la documentation utilisateur, on se rend compte qu'il y a pas mal de contenu d'exemples qui nous permettent en fait déjà de, par copier-coller, en fait, de reproduire des éléments et donc d'arriver à faire ce qu'on veut tant qu'on est dans une logique quand même de contenu relativement basique. Fred, vous avez fait des choses déjà un peu complexes avec DCE ?
Alors complexes, pas vraiment. Non, une utilisation standard avec des templates Bootstrap, comme on disait, pour faire des multicolonnes par exemple.
Oui.
Sans passer par les back-end layout ou des choses comme ça, juste pour le contenu ou des images de fond pratique pour les effets parallaxe ou des choses comme ça.
D'accord.
Pas de contenu très très compliqué.
Et toi Renan, qu'est-ce que tu as fait de complexe avec ce genre d'extension ?
Complexe, je dirais pas que j'ai fait des contenus complexes, c'était beaucoup de sliders, de contenus vraiment spécifiques, par exemple pour afficher des chiffres clés ou des choses comme ça. Donc simplement choix de l'apparence dans une liste déroulante et puis ensuite on gère dans le template l'affichage, le nombre de colonnes, des choses comme ça.
En fait, pour moi, cette approche-là, elle est intéressante quand on fait des sites qui ont un côté un peu design et avec des contenus qu'on ne peut pas trop industrialiser, quoi.
Voilà, des petits contenus, présentations.
Parfois, il y a des agences qui vont créer un design un peu chiadé avec des textes en gros qui présentent des chiffres clés, comme tu disais, avec des fonds qui bougent, de la parallaxe, etc. Il n'y en a qu'un seul sur le site ou deux. On ne va pas On ne va pas créer une extension non plus. Et par contre, on crée un contenu spécifique assez rapidement en se basant sur la découpe HTML.
Voilà, puis le contributeur n'est pas perdu voilà. Lorsqu'il saisit. C'est comme un contenu lambda pour lui. Donc,
On rend dynamique quand même un contenu plutôt graphique. Bon, et puis je pense qu'il y a des usages. Les usages sont aussi multiples qu'il y a d'idées côté création de contenu spécifique. Hein. On va peut-être faire des choses très complexes dans pas longtemps avec tout ça. Ok, alors maintenant on va attaquer la partie masque. Donc masque, pareil, donc à quelle version on en est côté TER, de quand date cette extension, est-ce qu'elle est mise à jour fréquemment, et puis après on va rentrer aussi dans la technique. Donc je vois que la première sortie était en 2015. Première version bêta compatible avec la 6.2, donc on est quand même sur une extension beaucoup plus récente. Qui, on peut supposer, s'est appuyé quand même sur ce qui existait déjà côté DCE pour construire le projet. Alors moi, je me rappelle avoir découvert Mask justement au moment, avant sa sortie même. Il me semble que c'était un projet crowdfundé Typo3.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a des restes de ça sur Internet, Typo3 Mask, je ne sais pas si tu peux chercher, mais il y avait un site Internet avec justement un Mask et on parlait de revival de Templa Voilà en fait. L'idée, c'était, je crois, de dire que c'était pour remettre Templa Voilà au goût du jour sur Typo3. Il y a une vidéo YouTube, Typo3 Mask, qui date de 2014.
Ouais, il y a une page Facebook aussi, où on peut suivre.
Oui, c'est ça. C'était une page Facebook, ouais, c'est ça. Donc là, il y a une vidéo Facebook où on dit, voilà, création d'un slider. Et donc, il y a une page Facebook qui s'appelle Typo3 Mask. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'était un projet assez ambitieux. Voilà, et regarde là, il y a un cœur avec Templa Voilà. Regarde, remonte un peu. Ouais, tu vois, Mask, ouais, Templa Voilà. Donc, c'était bien l'idée. Hein, c'était de dire, bon, Templa Voilà est en train de mourir. Quelle est l'alternative? Donc, bon, j'aime bien la démarche. En tout cas, ça a l'air d'être une bande de passionnés. Et le projet a l'air suivi aussi. Et donc, si on repart sur... Ah, tu regardes s'il y a un channel Slack aussi.
Ouais.
Mask. Ah oui, il y a un channel Slack Mask.
Donc on a un channel Slack Mask avec, et on a un channel Slack DCE.
Et un channel DCE aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Slack, c'est un outil de messagerie en fait propre à la communauté Typo3. Enfin non, pas propre à la communauté, mais qui est utilisé par la communauté Typo3.
C'est le IRC des temps modernes en fait.
Voilà, ok. Bon, très bien, c'est très clair. Donc l'IRC des temps modernes, moi j'aurais dit le Messenger, mais c'était encore trop long. et donc vous pouvez retrouver toute la communauté, tous les acteurs de chaque extension dans leur channel, leur poser directement des questions et puis faire progresser aussi le projet en rejoignant les projets, en apportant vos briques et vos réflexions sur les extensions. Alors on va reprendre le TER. Et donc dernière version du 1er avril 2016, donc assez récente aussi. Qui a corrigé pas mal de choses apparemment et qui est compatible du coup 7.6.99 depuis d'ailleurs
depuis la
deuxième version de 2015. On est compatible avec toutes les versions de Typo3 en gros. Ok, donc pour l'instant une extension quand même beaucoup plus jeune que DCE qui n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions. Pour DCE on n'a même pas essayé de compter, on était à au moins 40. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dur pour voir ce que propose Mask. Alors, je vais vous décrire ce que je vois à l'écran. Donc, dans le back-office, pareil, dans Admin Tools, j'ai une icône Mask avec qui représente un masque en mode compagnie créole, là, derrière mon loup.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et une icône rouge. Et quand je clique dessus, j'arrive sur un module back-office qui a l'air assez joli. Mais par contre, je n'ai que deux onglets et une petite icône rouage là, qui semble être paramètre. J'ai Content Element, Page Template et puis donc les paramètres.
Donc ça, c'est les paramètres logo de l'extension et la liste des contenus comme on retrouve pour DCE.
D'accord, donc là, j'ai des contenus. C'est toi qui les as créés, ceux-là, ou ce sont des contenus par défaut?
Donc ça, c'est des contenus qui ont été créés donc plutôt par Fred là, mais...
D'accord, oui, là on est sur ton interface de démo, Fred.
De démo qu'on a réalisé. Effectivement, c'est des contenus spécifiques que l'on a fait avec Mask.
Donc je vois contenu multi-bloc, contenu principal, contenu de colonne, pricing, bloc pleine largeur, partenaire, contact et bloc HTML. Donc ça, c'est pour insérer du code, c'est ça?
Voilà, donc là, on est sur un site one page dans lequel on retrouve une image avec une vidéo animée en fond qui prend toute la pleine page. Ensuite, on a des contenus avec des blocs de prix, par exemple, où on peut les créer. Donc tout ça, on l'a rendu dynamique et saisissable facilement par un contributeur.
D'accord.
Donc on a utilisé là ce masque pour faire ces types de contenus.
Ok, très bien. Et donc si je clique sur un contenu, par exemple, sur alors lequel contiendrait des images ou des choses comme ça?
On a le contenu principal, c'est une vidéo.
Ok, allez, on va cliquer dessus.
Contenu de colonne, il y a une image.
Allez, contenu principal, donc je clique dessus. Ou pas.
Hop, éditer.
Éditer, ouais.
Et donc ça ne marche pas. Ah si, ça y est, voilà. Alors là, on se prend une bonne petite claque quand même dans la vue parce que on a une interface pour créer donc des champs qui a l'air super bien faite avec des petites icônes de couleurs très jolies en flat design et toute la liste des contenus possibles imaginables par typo 3. Donc on a les strings, les integers, les floats, les links, les dates, datetime, text, rich text, checkbox, radio bouton, select box, file. Repeating, donc ça c'est des sections j'imagine.
C'est ça.
Et puis très fort aussi, on a la liste donc des champs déjà créés qui s'affichent. Et il me semble que d'ailleurs quand on crée un champ, alors peut-être on va y arriver après, mais Mask nous propose d'utiliser en fait des champs déjà existants par défaut de typo 3.
Voilà, c'est ça. Donc on a un système, donc on peut cliquer sur le plus, ou on a un système de drag and drop pour venir piocher les champs dont on a besoin. Et sur chaque champ, il nous propose une configuration dans laquelle on peut soit définir son contenu personnalisé, soit utiliser un champ déjà existant dans la table de contenu standard.
Alors par exemple, je prends un exemple concret.
Le titre du blog.
Voilà, le titre. Donc, là, je fais glisser string.
Voilà.
Je fais glisser le string. Dommage, il n'y a pas d'image. Voilà, donc là, je l'ai ajouté tout en haut. Donc, il me demande de choisir le champ. Donc, est-ce que je laisse par défaut New Field ou est-ce que je choisis justement header?
Un champ existant.
Voilà, et donc si je choisis header, je vais pouvoir récupérer le titre par défaut de tous les champs de typo 3.
C'est ça, et je peux aussi réutiliser des champs masques que j'ai déjà créés dans d'autres contenus.
Dans d'autres contenus,
ça c'est très intéressant. Pour éviter de polluer la table, puisque les champs sont réellement créés dans la base de données.
Okay.
Et donc ça, c'est un vrai avantage aussi.
Donc ça, c'est assez fort parce que moi, je me rappelle des FCE où en fait, on était toujours embêté quand on créait un titre. Parce qu'on avait du coup le champ header plus le champ titre, donc ça n'avait pas de sens. Et on ne voulait pas toujours utiliser le champ header de typo 3 et ce n'était pas géré super bien.
C'est ça, on ne s'est pas attardé dessus sur DCE, mais on peut aussi le faire maintenant via DCE.
D'accord, aussi. Et je vois aussi qu'on peut surcharger du coup le label du champ par défaut. Donc si vous voulez utiliser le champ header de typo 3 mais que vous ne voulez pas l'appeler titre, vous allez en fait l'appeler différemment tout en gardant quand même l'utilisation du champ header.
C'est ça, header. Dans la base de données. Et donc, ça a un double avantage, c'est que par exemple, donc là, sur ce contenu, comme c'est un site one page, le menu principal du site est un menu de référence vers les contenus, donc un menu d'encre. Et donc, ces encres sont créées directement dans le contenu. Donc, on ajoute un champ qui permet de définir le titre qu'on aura dans le menu, et on peut faire en TypoScript son menu d'encre, puisque ce sont des vrais champs dans la base de données.
D'accord.
Alors là, je vais décortiquer un peu ton contenu. Donc, il y a titre du blog, il y a un body texte, il y a apparition du texte. Donc, ça, c'est un champ.
Voilà, parce qu'on a des effets de texte qui viennent de la gauche ou de la droite en JavaScript.
D'accord.
Chargement de la page. Donc là, on peut définir, on a défini un champ dans lequel on a des valeurs possibles où on choisit, ça vient de gauche, de droite, de haut, de bas. Donc ça, pour le contributeur, on aura un petit sélecteur qui permettra de dire d'où vient le contenu.
Alors là, pour les images, j'ai un contenu et c'est juste overwrite label. Donc en fait,
j'utilise le champ image du contenu standard.
D'accord, ok, très bien. Apparition d'image. Alors là, j'ai quoi? J'ai gauche, left, droite, right.
Voilà,
c'est quoi
même,
ça?
C'est pareil, c'est pour avoir un effet sur l'image qui va venir de la gauche, de la droite, du haut ou du bas en JavaScript.
Donc ça, c'est des attributs JavaScript en fait que tu as rajouté.
C'est ça, qui vont venir se mettre dans l'HTML sur la classe.
Donc j'ai le champ lien aussi. Bon, ça a l'air vraiment. Enfin, pour moi là, je me sens plus à l'aise en tout cas avec cette interface. Maintenant, il y a moins d'onglets quand même, j'ai l'impression, dans le bac.
C'est beaucoup plus simple. Sur la définition du contenu, on a juste un titre, une clé, une description, et ensuite on met une icône une icône avec la librairie.
Oui, alors ça, si j'y arrivais, ça c'est assez sympa. On pioche directement dans les icônes font awesome. Et donc, il suffit de mettre le code de l'icône.
Le code de l'icône et une couleur, et hop, on a notre icône de contenu.
On a notre icône. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on a aussi un code couleur hexadécimal qui, du coup, donne la couleur de l'icône, puisque ce sont des icônes qui sont vectorielles auxquelles on peut passer des paramètres. Donc là, je dirais qu'en termes de fonctionnalité, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être plus de possibilités côté DCE. Mais en termes d'usage, masque, ça devient super agréable, quoi.
Voilà, la seule différence va être au niveau du templating, puisque le templating, on l'avait directement dans le contenu, dans la création d'essai en back-office, tandis qu'ici, en fait, il nous génère un fichier que l'on peut stocker sur le serveur.
Donc là, tu es obligé de passer par un fichier, tu peux pas
éditer ton template directement. C'est l'onglet réglage, en fait, où on a le chemin de destination des fichiers. Donc il va nous créer un fichier avec la clé que l'on aura.
Mais donc du coup c'est un réglage global à tous tes contenus spécifiques.
C'est ça.
Tu peux pas choisir d'avoir des contenus spécifiques qui vont être stockés à un endroit et d'autres à un autre endroit.
Non, là c'est tout au même endroit. Alors après en TypoScript on a la possibilité de surcharger certains dossiers.
D'accord.
Il y a une configuration TypoScript pour modifier cela, mais par défaut c'est voilà, c'est donc là par exemple j'ai modifié par défaut c'est dans le file admin, là je l'ai modifié pour aller dans mon extension de skin directement. Comme ça mon skin embarque tous mes templates masques.
Ok, donc ça c'est. Alors effectivement j'ai cliqué sur la petite icône rouage là, donc j'ai la configuration de l'extension. Et donc file with project specific mask configuration. Et donc là j'ai typo3conf mask.json.
Donc ça, c'est le fichier
de conf.
C'est ce fichier standard. Voilà.
Ensuite, j'ai le dossier qui contient les contenus fluides. Donc là, c'est ton chemin perso avec ton skin. Ensuite, j'ai les images de preview, où est-ce qu'elles vont être stockées. Et puis, les images de la preview back-end, puisqu'on a aussi la fonctionnalité de preview back-end.
C'est ça, on peut mettre un template fluide pour le rendu back-end.
Ok, donc là, à ce niveau-là, je dirais que avec Mask, on va vite arriver à faire quelque chose, à créer son formulaire back-office et ce sera plus sexy qu'avec DCE. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut plus galérer qu'avec DCE pour faire le templating si on ne connaît pas trop.
Oui, alors
parce
sachant
que du coup, on a pas d'aide là.
Sur chaque contenu, on a un petit bouton qui nous sort le code qui est généré par défaut. Code que l'on peut copier-coller pour générer notre template fluide et récupérer nos variables.
Donc il y a une forme d'assistant, mais. Ce que j'aimais bien quand même dans DCE, c'est le fait qu'on puisse tout voir en back. Et donc,
là, c'est vrai que ça impose une gymnastique différente.
Mais l'avantage, c'est que Mask force à faire les choses bien.
Entre guillemets, on gère les champs dans le back et on n'a pas des enregistrements qui grossissent avec le template dedans. C'est des fichiers qu'on peut stocker.
Ouais, ce que tu peux faire aussi avec DCE, mais t'as les deux,
options
en fait, finalement.
Donc. Si on doit faire un petit bilan là, des choses, si on compare les deux extensions, donc au niveau puissance et fonctionnalité, qui aurait l'avantage ?
Alors il y a un petit onglet là, qu'on n'a pas détaillé, qui est le page template dans Mask, qui est aussi important, qui permet de créer les champs que l'on souhaite dans la table page, et pas seulement au niveau des contenus.
Ah, donc ça permet d'étendre,
facilement.
D'accord.
La table page.
Ah, ça c'est vraiment intéressant.
D'accord, j'avais pas compris à quoi ça servait. Je pensais qu'il s'agissait de template de page, moi.
C'est des templates de page, on crée des layouts.
D'accord.
Donc là, j'en ai. Par défaut, il en faut un. Il faut la page d'accueil, par exemple. J'en avais créé un autre, layout 2. Alors, j'ai plus l'exemple.
Et donc
dedans.
Là, tu peux étendre.
On peut glisser des champs que l'on souhaite.
Aussi, ouais.
Et ensuite, quand on va l'utiliser en back-office, donc il faut créer un back-end layout d'abord. Ensuite on crée notre template masque et on peut créer des champs comme ça qu'on aura dans la page.
Ça c'est vraiment très intéressant.
Ouais. Ça c'est vraiment une des nouveautés que DCE n'apportait pas.
On propose pas du tout.
Donc si on compare les deux, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas loin d'être égalité puisqu'on a du plus de...
Dans la philosophie c'est exactement la même ambition et je pense qu'elle est complètement réussie des deux côtés. C'est vraiment deux extensions faciles à utiliser, qui nous permettent de créer nos contenus comme on veut.
Alors moi pour faire une démo client et vendre du typo 3, je présenterais Mask hein, quand même.
Ah, pour le, oui, pour le côté ouais. Pour le côté souplesse, drag ouais. and drop, interface intuitive, effectivement, Mask...
beaucoup plus sympa. Hein.
Je pense qu'un simple contributeur qui n'a pas forcément de notion avancée en développement,
il peut créer son modèle de contenu
ouais. et il a juste besoin d'un intégrateur pour lui faire le template.
Faire l'affichage, ouais. en fait. Mais, donc, au niveau puissance et fonctionnalité, bon, j'ai l'impression quand même que DCE, quand on creuse vraiment en finesse, a des subtilités qui vont un peu plus loin que Mask,
ouais.
de ce bah, que le j'ai côté entendu. Liste et détails.
Voilà, il y a un côté quand plus, même. Ça, voilà. Et puis, à plus d'ancienneté aussi, donc ils sont peut-être allés plus loin. Côté ergonomie, je donnerais quand même clairement l'avantage à Mask.
Je suis assez d'accord.
Donc voilà, même si DCE est plutôt bien fichu, mais Mask c'est super bien.
Oui, on a des belles icônes, des belles couleurs, ouais. Il colle bien avec l'apparence de typo 3.7 en plus.
Oui, ouais, et puis sur la création par exemple des sections, des objets qu'on répète, bah, en fait on drag and drop un objet repeating dans lequel on va venir faire du drag and drop d'objets.
Ouais.
Comparé okay. à DCE où c'est de l'inline record, le fameux voilà, IRRE qui est un peu compliqué à gérer. Avec,
on utilise une section pour créer des sections.
C'est ça, voilà. Donc c'est un peu. Voilà, c'est une différence.
Juste okay. de lâcher, Et ensuite, niveau complexité technique, niveau technique en tout cas pour gérer la création de contenu spécifique, bah, de toute façon, Mask, on va retrouver la même problématique d'intégration fluide. Donc. Je dirais que Mask, on va pouvoir, comme on vient de le dire, créer quand même son contenu en étant juste administrateur. Quoi. On pourrait dire, on pourrait donner la main à un client qui est administrateur, lui dire bah, allez-y, créez vos contenus, et nous derrière, on fait l'affichage.
C'est ça.
Alors qu'avec DCE, c'est pas très possible, c'est un peu plus compliqué quand même.
Ça, l'interface est un peu plus complexe avec la configuration Flexform. C'est vrai que pour ça, Mask voilà, est très simple et très intuitif. J'ai envie de dire qu'il y a la souplesse d'avoir des vrais champs dans la table TT Content qui est intéressante parce que si on peut s'en servir en typoscript, faire des requêtes. Par contre, à contrario, on a une autre problématique qui est bah, si on fait trop.
On a une petite interruption à nouveau des visiteurs dans le bureau. Donc Frédéric,
Mask a été créé en... Ah non, pardon, c'était... Non, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a l'avantage d'avoir des vrais champs dans la table content de typo 3, mais qui peut être aussi un inconvénient quand on crée beaucoup de volumes de contenu, parce qu'on va venir rajouter des champs à cette table-là, ce qui peut être problématique, mais on a aussi l'avantage d'utiliser des champs natifs. Et ça, c'est vrai que c'est quand même appréciable pour du typoscript et des requêtes par derrière.
Et j'avais une question aussi, justement, à propos de Mask, puisque comme DCE, on utilise le Flexform directement, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Est-ce que tu n'as jamais été bloqué par le fait d'avoir juste des boîtes à cocher et des champs vraiment fixes dans Mask?
Non, sincèrement, j'ai pas été bloqué par ça. On a, pareil, quelques configurations de base en fonction des champs. C'est un peu moins poussé que DCE sur ce point-là, mais ça permet de faire le job facilement, quoi.
Ouais,
j'ai pas eu de contrainte à ça.
Quand on en parle avec Guillaume, qui est plutôt DCE, parce qu'il l'utilise depuis super longtemps, vu qu'il peut mettre les mains tout de suite dans le cambouis et dans les flexformes, il arrive à faire des trucs complètement monstrueux. Mais on est à un niveau aussi là d'intégration qui n'arrive pas tous les jours. Hein. Et je pense qu'avec Mask, on y arrivera aussi, puisque les flexformes sont là quand même derrière. Il y a quand même le fluide aussi qui permet de faire des choses assez complexes. On peut dire que c'est deux bons choix. Libre aux intégrateurs de choisir les deux et puis de voir en fonction de leur appétence. Disons qu'un technicien, un développeur qui fait de l'intégration, je lui conseillerais plutôt DCE. Et un intégrateur pur, plutôt Mask, peut-être.
Voilà, c'est ça. Surtout pour créer des contenus simples, en fait. Je dirais après.
Sans beaucoup de configuration.
Ouais.
Parce qu'on a un autre souci que je trouve dommage avec Mask, c'est la possibilité de lier des enregistrements qui n'existe pas. Je pense que c'est une des évolutions
qui pourrait être
intéressante. Ouais. Pour pouvoir lier d'autres enregistrements et du coup les récupérer dans ces templates fluides, ce serait intéressant.
Ok, bah écoutez, c'est pas mal, on a fait le tour en tout cas de ce qu'on pouvait dire sur les deux extensions. Alors, donc pour rappel, on enregistre en Autriche un tuto vidéo là-dessus, Renan, fin mai. qui sera probablement disponible en juin, où on va vraiment faire des démos visuelles et des tutoriaux précis. Et puis, moi, je voulais étendre un peu le sujet aux autres CMS. Alors, je connais pas trop, par contre, mais j'espérais que, Fred, toi, tu as la vision Drupal, au moins, puisque je sais que t'en as fait
alors,
un peu.
Ouais, alors, au niveau de Drupal, je trouve que ça permet de combler le retard sur la partie view. Drupal propose des vues où on peut créer donc nativement dans Drupal ses propres types de contenus, donc ce que fait Mask et DCE aujourd'hui, avec ses propres champs, et on peut du coup créer des vues sur ces champs, sur ces contenus-là, pour faire des listes, des modes détails, etc. Je pense que ça permet de combler un petit peu ce retard qu'aurait pu avoir Typo 3 vis-à-vis de Drupal là-dessus.
Ça, ouais. C'est vrai que ça a été un point qui a souvent été mis en avant côté Drupal. Nous on répondait à la même chose avec les FCE, mais c'est vrai que les FCE, tu donnais pas la main à un client sur la création de ces FCE, quoi. Alors que là, on peut vraiment donner la main et dire allez-y, constituez votre contenu.
Et créer son propre type de contenu facilement, comme Drupal sait le faire depuis un moment. Donc je pense que à ce niveau-là, l'écart est quasi comblé.
Ouais. Ensuite, niveau WordPress, j'ai pas trop vu cette fonctionnalité.
Non.
Mais on dit qu'on s'en fout de toute façon, non ?
Je pense qu'on peut dire qu'on s'en fout.
D'accord. Bon, bah voilà. On va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Écoutez, j'espère aussi qu'on va pouvoir garder le rythme et puis proposer d'autres podcasts assez régulièrement. En tout cas, plus proche que tous les 2 ans. Pour les vieux de la vieille qui nous écoutent, merci. J'espère que on a gardé le niveau et que ça vous plaît toujours autant. Et puis pour les nouveaux, vous pouvez aller réécouter les anciens numéros. Il y en a qui ne sont pas périmés parce qu'ils parlent de sujets qui sont toujours d'actualité et d'anciens qui seront intéressants pour les nostalgiques. En tout cas, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Salut.